Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, la pratique divise en Europe. La corrida ou course de taureaux, cette tradition qui remonte au XVIIIe siècle où le taureau est mis à mort ou exceptionnellement gracié à l'issue d'un combat avec le matador. Ce spectacle a-t-il encore un sens aujourd'hui? Est-il un art ou une tradition barbare? Le Parlement français en débat pour la première fois aujourd'hui. Mais au Portugal aussi, la tourada, à cheval et sans mise à mort de l'animal, suscite depuis quelques années une forte opposition. Avec depuis 2008 la fin des diffusions en direct des corridas à la télévision, Marilyn Darcy revient sur cette pratique néanmoins très ancrée au Portugal.
Les fêtes de la ville réunissent les aficionados pour des spectacles taurins très prisés. Quelques 3000 personnes se serrent sur les gradins pour vibrer devant le spectacle. Grâce à une spectatrice.
Ce spectacle, c'est notre culture, celle du Portugal et de l'Espagne. Moi, j'aime assister à l'affrontement entre l'homme et l'animal. Mais je n'aime pas voir le taureau et les hommes blessés. Le toréador considère l'animal avec respect. Il ne peut pas le tuer. C'est en Espagne qu'on fait ça. C'est très différent. Ici, c'est beau de voir les chevaux à l'œuvre. Au Portugal, il y a vraiment cette idée du face-à-face homme-animal.
La tourada, ainsi nommée en portugais, diffère de la corrida espagnole ou française. Elle se pratique à cheval uniquement. Le taureau n'est pas mis à mort dans l'arène et à la fin, il est maîtrisé à main nue par un groupe de 11 hommes, les forcados. Un spectacle que certains veulent plus respectueux des droits de l'animal, plus doux. Et il a beaucoup d'amateurs. Pedro Maia, rencontré à la tourada de Vilafranca de Xira.
J'aime ça. Je suis né dans le Ribatejo, à côté d'un élevage. Ça fait partie d'une tradition particulièrement ancrée dans notre région. Sans nous, il n'y aurait plus de taureaux qui vivent librement sur nos exploitations. Au Portugal comme en Espagne, sans ce que l'on appelle la fête brave, le taureau aurait disparu.
Jusqu'à ce jour, la tentative de promulguer une loi interdisant les arènes aux moins de 16 ans ont échoué. Et c'est avec ses enfants de 10 et 11 ans que Pedro Maia a assisté à la corrida.
On ne les oblige pas, mais ça fait partie de notre manière de vivre. À l'école, les enfants jouent au taureau et à la corrida entre eux à 5, 6 ou 7 ans, parfois plus jeunes, en cours de récréation. C'est important, c'est la tradition. Ce que je dis aux opposants, eh bien que ça ne tient pas à leurs arguments. Bien sûr, il y a le droit des animaux, mais les gens ne sont pas préoccupés par les dorades, les barres, les poules, les vaches et les lapins. Autant d'animaux qu'on mange et qui sont vraiment maltraités. Notre corrida, c'est une célébration de la campagne naturelle.
Avec ses 250 spectacles taurins par an, ses lâchers de taureaux dans les rues sous contrôle d'hommes à cheval ou guidés par une corde, comme aux Açores, la tourada portugaise est un monde à part. Depuis quelques années, cette corrida subit cependant une forte opposition. En 2018, trois militants de la cause animale ont été sauvagement agressés après avoir envahi l'arène d'Albufeira dans le sud, l'une des plus importantes du pays. Eder Neves était l'un d'eux.
Avec Arthur Nascimento et Peter Jensen, on a pénétré dans l'enceinte de l'arène sans agresser personne, pacifiquement. On a juste enlevé nos t-shirts. Et dans nos dos, il était écrit « Fin au tourada, fin de la violence contre les animaux ». On nous a immédiatement attrapés. Nous n'avons pas résisté et n'avons pas riposté. Mais nous avons été agressés violemment. J'ai eu 8 mois d'arrêt de travail. Les aficionados nous ont roués de coups. Un toréador a même dit « Tuez ces fils de pute, ils ne font rien. Ils feraient mieux de travailler. »
Eder Neves est membre du PAN, le Parti des animaux et de la nature, récemment entré au Parlement. Calmement, il démonte l'argument selon lequel la corrida doit être maintenue car traditionnelle.
Défendre une pratique médiévale, cruelle, qui fait saigner un animal parce qu'elle existe depuis 400 ou 500 ans et argumenter que c'est une tradition, c'est non recevable. On peut aussi avancer l'argument sur l'ancienneté d'autres pratiques pour les justifier. L'excision en Guinée-Bissau ou la violence faite aux femmes qui existe depuis la nuit des temps. Non, l'ancienneté, ce n'est pas justifiable.
Mariana Carvalhal est petite fille et arrière-petite fille de Forcados, fille d'un propriétaire d'élevage de taureaux et cavalière à Montemoronov, c'est dans le sud du pays. Elle a, dit-elle, la tauromachie dans le sang. La jeune femme avance des arguments philosophiques et artistiques pour justifier sa passion.
Ce qui se passe dans l'arène, comme disait Hemingway, est un spectacle. Sauf qu'ici, dans ce spectacle, les acteurs, c'est-à-dire les matadors, les toréadors, mettent leur vie en danger. C'est réel. Le matador peut mourir. Beaucoup sont sensibles au fait que le taureau peut mourir dans l'arène, mais c'est la dignité de l'animal. Sa vie se termine sous les applaudissements. Il ne peut pas y avoir de vie sans mort et de bonheur sans douleur. Les gens ne veulent pas de souffrance, ils ne peuvent pas se permettre d'être malheureux. Ils ont peur de la douleur. La tauromachie, c'est la vérité, dure et cruelle, mais de manière artistique.
Mais en forme artistique.
Selon des chiffres, à prendre avec précaution, car émanant des pro-taureaux, à peine 11% des Portugais seraient opposés aux corridas portugaises. L'activité brasserait des millions d'euros, mais c'est le règne de l'opacité. Régulièrement évoquée, l'interdiction de la tauromachie est rejetée. Après l'interruption provoquée par la pandémie Covid, les anti-corridas promettent de reprendre le combat.
Et en France, on n'a jamais autant parlé de corrida que ces derniers jours. En cause, une proposition de loi visant à abolir la corrida sur tout le territoire français. Elle est examinée aujourd'hui par les députés. Et même si selon un sondage IFOP, 74% des Français seraient favorables à l'interdiction de cette pratique, la question divise les partis politiques. Dans le sud de la France, entre 150 et 200 corridas sont organisées chaque année, avec un millier de taureaux tués. Résultat, les acteurs de ce secteur culturel et économique se mobilisent, comme a pu le constater Frédéric Faux.
Devant les arènes de Nîmes, une manifestation rassemble quelques dizaines de personnes qui protestent contre cette loi qui, encore aujourd'hui, autorise les corridas.
L'affreux alinéa 11 protège les tortionnaires. Les gens sont contre. C'est terminé. On abolit cette merde.
Un message qui n'est pas facile à faire passer à Nîmes, capitale française de la tauromachie. Un motard aficionado fait vrombir son moteur pour interrompre le discours. Et le ton monte. Dans une manade de Camargue, au même moment, près de 2000 personnes sont rassemblées pour soutenir la corrida, mais aussi les autres cultures taurines comme la bouvine, la course camarguaise, où les taureaux ne sont pas tués. Pour Corentin Carpentier, président des jeunes aficionados, une éventuelle interdiction de la corrida ne serait qu'une première étape, avant que les défenseurs de la cause animale ne s'attaquent à ces autres traditions.
Clairement, si demain cette exception course de taureaux est supprimée dans la loi, eh bien, quelqu'un, une association animaliste qui veut attaquer un organisateur de course camarguaise parce qu'un taureau s'est blessé en tapant aux planches, pourra très bien être condamné pour sévices faits sur les animaux. C'est toute la culture taurine qui est en danger.
Quelle que soit l'issue des discussions à l'Assemblée nationale, pour Claire Starozinski, figure historique de la lutte anti-corrida, une chose est déjà sûre.
Ce qui se passe en ce moment, c'est effectivement historique parce que c'est inédit. On n'a jamais autant parlé de corrida depuis 4 mois.
Un débat qui sera tranché, ou pas, ce 24 novembre.
Elle est le nouveau visage de la Suède sur les questions climatiques. Romina Pourmokhtari, la jeune ministre de l'Environnement, a promis à la COP27 que son pays maintenait le cap des réductions de gaz à effet de serre. Et pourtant, le programme du gouvernement de droite dont elle fait partie indique tout le contraire. À Stockholm, chercheurs et associations environnementales accusent Romina Pourmokhtari d'hypocrisie. Les explications de Carlota Morteau.
Baisse des taxes sur le diesel, déduction fiscale pour les automobilistes, fin du bonus pour les voitures électriques, abandon des investissements dans le rail. La liste des renoncements écologiques est longue, mais Romina Pourmokhtari préfère ne pas en parler. À 26 ans, la jeune ministre de l'Environnement, membre du Parti libéral, n'aime pas non plus qu'on lui rappelle qu'elle avait affirmé sans détour qu'elle ne participerait jamais à un gouvernement formé grâce au soutien de l'extrême droite. Beaucoup estiment qu'elle a vendu son âme. Elle avait déclaré au moment de son investiture que travailler pour le climat, c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Plutôt engagée sur les questions scolaires, sans expérience dans le domaine de l'environnement, Romina Pourmokhtari se retrouve en réalité à la tête aujourd'hui d'un ministère qui a perdu son indépendance puisqu'il est passé sous la tutelle du ministère de l'Énergie et de l'Industrie. Et comme si elle n'avait pas assez d'incendies à éteindre, la ministre des Finances ne lui a pas facilité la tâche. Interrogée le week-end dernier sur les objectifs climatiques de la Suède, censés être atteints en 2030, Emma Löfgren a déclaré « Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas ».
Et pour tous les déçus de la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est terminée la semaine dernière avec assez peu d'avancées, la lutte pour le climat se poursuit sur la toile. Sur le réseau social Reddit, des internautes sont en train de réunir des preuves de crimes climatiques. Et c'est votre Europe du Net, Clémence Pénard, bonjour.
Bonjour Léa Lisa.
On parle donc d'un tribunal pas comme les autres.
Oui, depuis juin 2020, un subreddit est consacré à ça. Un subreddit, c'est comme ça qu'on appelle sur le réseau social Reddit un forum de discussion sur un thème spécifique. Là, l'idée, c'est de publier des preuves, vous l'avez dit, de crimes contre le climat commis en ce moment même. Car oui, d'après ce subreddit, il existe bel et bien aujourd'hui des criminels climatiques. Qui sont-ils ? Il y a les multimilliardaires, ceux qui se déplacent plus souvent en jet privé qu'en train, les PDG dans l'industrie fossile par exemple, ou bien les climato-sceptiques. Oui, il y en a encore. Voilà ce qu'on peut lire en descriptif du forum.
Avez-vous vu un politicien, une personnalité médiatique, nier le changement climatique ou bloquer les progrès vers la transition énergétique ou encore faire pression pour les intérêts des combustibles fossiles ? Dans tous ces cas, on a affaire à des coupables de crimes climatiques. Documentez les preuves de leur criminalité ici.
Depuis plus de 2 ans, donc, pas loin de 2000 internautes mènent quotidiennement l'enquête. L'un des posts fondateurs du forum, qui est toujours épinglé en tête de liste d'ailleurs, montre Greg Hunt, le ministre de l'Environnement australien, en 2014. Tout sourire et bras dessus, bras dessous avec d'autres libéraux, il célèbre l'abrogation de la taxe carbone dans le pays. Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, qu'elle visait donc à réduire. Un membre du groupe y va alors de son commentaire prophétique. Je vois bien cette photo intitulée « Pièce A au procès ». De Liz Truss au ministère de l'éducation polonais en passant par BP, British Petroleum, les personnalités politiques ou les entreprises européennes ne sont évidemment pas épargnées. Et pour Aude Solveig Epstein, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, spécialisée en droit de l'environnement, ces éléments amassés sur Reddit pourraient constituer de réelles preuves.
Dans tous les cas, les preuves qui sont réunies sont susceptibles d'être recevables. Le fait qu'elles aient été collectées sur un réseau social n'est pas en soi à entamer leur crédibilité.
On le sait maintenant, quand les mécanismes traditionnels semblent faire défaut, la société civile se tourne vers Internet.
Il y a eu des tentatives de faire émerger un droit international de l'écocide, mais qui n'ont pas été couronnées d'effet à ce stade. C'est un moyen pour eux de trouver une plateforme pour exprimer leurs préoccupations. On voit bien que c'est un phénomène qui touche plus seulement des individus, mais des générations entières. Après, est-ce que c'est la meilleure manière de faire et est-ce que c'est celle qui est la plus susceptible d'être porteuse d'effet ? Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il faut recommander à ces internautes de se mettre à faire du droit pour voir comment ils pourraient transformer leurs préoccupations en argumentaire juridiquement robuste.
Et ça peut marcher. Des citoyens peuvent arriver à obtenir gain de cause devant la justice. On se souvient de l'affaire du siècle. En octobre 2021, la France avait été condamnée à réparer les dommages causés pour son inaction climatique.
D'ailleurs, le forum indique qu'un procès, Clémence, devrait s'ouvrir en 2035.
Oui, c'est en tout cas ce qui est annoncé. Bon, d'abord, un véritable procès, c'est peut-être l'objectif de ces internautes, mais les cartes ne sont pas dans leurs mains, ils ne sont pas magistrats. Et puis, le nom qu'ils ont choisi pour ce procès est un peu délicat. Ils l'ont appelé le procès Climate Nuremberg. Aude Solveig Epstein, à nouveau.
Le terme est sans doute déplacé et maladroit. Le procès de Nuremberg, c'est évidemment le procès contre des responsables nazis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. ne peut pas exclure que l'objectif était un objectif de communication et de médiatisation. Et donc, dans cette perspective-là, on comprend l'intérêt d'élever la gravité des faits au niveau de celle incarnée par le procès Nuremberg.
Et derrière l'expression Nuremberg, l'idée était-elle de faire un parallèle ?
Le 20 novembre 1945, c'était il y a 77 ans, les incriminations de crimes contre l'humanité, de génocide n'existaient pas. Ce sont des créations juridiques d'après-guerre. Ces internautes espèrent donc, sans doute, à l'occasion de ce qui serait un procès historique, qu'un nouveau chef d'accusation émerge de la même façon.
Ce sont en tout cas d'ores et déjà de nouvelles formes de contestation et de mobilisation. Clémence, merci à vous. On vous retrouve jeudi prochain. À l'heure où on parle de plus en plus de sobriété énergétique, imaginez un immeuble sans chauffage ni climatisation, mais où la température serait douce toute l'année. C'est la promesse d'un bâtiment construit près de la ville de Lucerne, en Suisse. Le concept venu d'Autriche est plus que d'actualité. Pas de chaudière, pas de facture et pas d'émissions de CO2. Visite de cet immeuble nouvelle génération avec Jérémy Lanche.
Maintenant, dedans, c'est plus que 22 degrés et à dehors, c'est 11 degrés. C'est quand même agréable ici de travailler. Ouais.
Plus de 10 degrés d'écart avec l'extérieur. Esther Muller, la directrice de l'école implantée dans le bâtiment, disait donc vrai. La neige a beau avoir fait son apparition sur les sommets autour de la petite ville d'Emmen, le froid n'a pas droit de cité dans le 2226 Emmenweid, c'est le nom de l'immeuble. Pourquoi 2226? Eh bien parce que la température ne descend jamais en dessous de 22 degrés et qu'elle ne monte pas à plus de 26. Depuis 4 ans qu'elle dirige l'école, la promesse des concepteurs n'a jamais été démentie, sauf au plus fort du Covid.
C'est vrai, ça monte jamais plus que 26 degrés. La difficulté avec le corona, pour faire toujours des ventilations, beaucoup plus que normal. Et ça fait que les températures sont des fois un peu plus bas que 22 degrés.
Mais tout ça ne dit pas comment ça marche. Alors, est-ce que c'est grâce à une innovation technologique majeure, à un nouvel isolant biosourcé peut-être ? Pas du tout, explique Stéphane Marending du cabinet d'architectes Boomschlager et Berle. Ici, trêve de high-tech, on est plutôt dans le low-tech. Tout se joue dans les murs.
Les murs sont très épais, ils font 80 cm. Normalement, vous avez 20 cm de ciment et 20 cm d'isolation. Là, il n'y a aucune isolation, juste des briques de terre cuite. L'idée, c'est que les briques retiennent le froid. Il va mettre des semaines à rentrer dans le bâtiment.
Sur le papier, l'idée est vieille comme le monde, mais il ne suffit pas de construire un immeuble avec de la terre cuite pour lutter contre la chute des températures, parce que si les murs emmagasinent le froid, ils vont tout de même en restituer une partie à un moment donné, et c'est là que notre chaleur corporelle intervient. L'idée du 2226, ce n'est pas tout à fait de se passer de toute forme de chauffage, non. L'idée, c'est d'utiliser les sources de chaleur existantes, notamment celles que nous dégageons naturellement avec notre corps. Mais il y a d'autres sources à exploiter.
On a pris en compte toutes les activités qui influent sur la température, notamment les luminaires, les ordinateurs, les moteurs des frigos même, et puis les occupants, bien sûr. On peut jouer un peu sur la température en activant la ventilation, mais pas beaucoup. On ne pourra jamais appuyer sur un bouton pour dire « je veux 28 degrés ». Ça n'est pas possible.
Le défi maintenant, c'est de faire la même chose pour des logements. Un bâtiment résidentiel doit voir le jour à Zurich, un autre à Lyon. Mais si les matériaux seront les mêmes, la conception devra forcément évoluer.
Dans des bureaux, c'est simple. Vous savez que vous avez, mettons, 20 personnes et qu'elles sont là de 8h à 17h, avec tant de machines à café qui fonctionnent, tant d'ordinateurs en marche. Dans des logements, c'est plus compliqué. Vous ne savez pas quand les occupants sont là ou non, et quand ils vont chauffer le bâtiment grâce à leur présence. Une famille ne veut pas habiter son logement de la même manière qu'un célibataire sans enfant. Il faut réfléchir à tout ça, parce que l'immeuble se comporte comme un système.
Autre avantage du concept 2226, son coût. Pas de chauffage ni de clim, ça veut aussi dire pas de tuyaux à faire passer dans tout l'immeuble et pas de gros frais d'entretien. Les concepteurs du bâtiment jurent qu'il serait 10% moins cher à construire qu'un immeuble standard.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site internet, les réseaux sociaux et en podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.